Voilà, bonjour. Je vais parler de Gaza, où j'ai séjourné deux fois, plutôt brièvement, quelques jours en décembre 2013 avec une entrée par l'Égypte, et 3 semaines en mai-juin 2016 avec une entrée par Israël. À chaque fois, c'était très compliqué, mais ça a marché. Gaza, c'est un morceau de la Palestine fragmentée. Vous avez en gros 7 millions de Palestiniens et 7 millions de Juifs israéliens entre Méditerranée et Jourdain, plus 4 à 5 millions de Palestiniens qui vivent ailleurs, entre le Proche-Orient, l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Et sur les 7 millions de Palestiniens qui vivent entre Méditerranée et Jourdain, il y en a en gros 2 millions et demi en Cisjordanie, sans compter Jérusalem. 2 200 000 à Gaza, 2 millions palestiniens de 48 en Israël même, et 400 000, 350 000 à 400 000 à Jérusalem-Est. Cette fragmentation de la Palestine a été totalement voulue, et donc Gaza, j'ai envie de dire, c'est le morceau le plus fragmenté de la Palestine. 360 km², donc une densité de population qui est de 6 000 habitants au kilomètre carré, c'est sans doute une des plus fortes du monde. Un petit parallélogramme de 40 km sur 10, avec toute une façade maritime, mais un lieu qui est complètement bouclé par terre, par air et par mer, et j'en parlerai un petit peu plus loin. Je vais parler un peu d'histoire. Cette partie de la Palestine, elle a eu toute une série d'occupations parce qu'elle se trouve à un carrefour. C'était le lieu de passage entre l'Égypte et le Proche-Orient, et c'était l'arrivée des caravanes qui arrivaient du Yémen et d'Arabie du Sud. Donc elle a été occupée très longtemps par les Égyptiens, les Cananéens. Le mot Palestine vient des Philistins, qui n'est pas un peuple sémitique, qui est un peuple de la mer. Et justement, dont en gros l'essentiel des Philistins, c'était dans la région de Gaza et d'Ashkelon, les Perses, les Grecs, les Romains, les chrétiens. Alors ils sont plus que 6 000 à Gaza, mais je suis rentré à Gaza un jour de Noël en 2013, et Noël est un jour férié à Gaza, parce que même s'ils ne sont que 6 000, c'est une partie importante du peuple palestinien. Et il y a encore un très grand monastère, très beau, Deir el-Balah. Et puis ils ont été occupés par les Byzantins. La conquête arabe s'est faite en 637 après Jésus-Christ. Puis il y a l'occupation ottomane. La Palestine est une province ottomane. Et en 1917, en pleine guerre de 14, les troupes britanniques attaquent l'Empire ottoman à partir de l'Égypte. C'est le général Allenby. La bataille décisive a lieu à Gaza. Et après la chute de Gaza, les Britanniques vont occuper l'ensemble de la Palestine, et peu après, ils vont avoir le mandat sur l'ensemble de la Palestine. Donc c'est à Gaza qu'a commencé l'épisode britannique. La conscience palestinienne va se développer pendant ce mandat britannique. Et puis j'arrive aux années de la Nakba. Le plan de partage qui est voté en novembre 1947 prévoit un État arabe, on ne dit pas palestinien, qui est morcelé, mais avec un morceau important qui dépasse assez largement la bande de Gaza, puisqu'il comprend aussi Ashkelon et il comprend aussi toute une zone assez importante le long de ce qui est actuellement la frontière égyptienne. La guerre de 48 va aboutir à l'arrivée à Gaza, parce que les troupes égyptiennes vont garder Gaza, alors que le reste du Négev va être occupé par les Israéliens. En gros, au moment de l'armistice de 48-49, dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza, il y a 80 000, entre guillemets, Gazaouis de souche et un peu plus de 200 000 réfugiés qui vont arriver. Donc vous voyez un petit peu ce que ça signifie. On est à 280-300 000 habitants en 1949, 2 200 000 aujourd'hui. Mais il faut comprendre que toute la population aujourd'hui de Gaza, très très largement, ce sont des gens qui ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies des réfugiés. 72% de la population a la carte de l'UNRWA. Et il y a encore 3 à 4% de la population qui sont des réfugiés, notamment des Bédouins, mais qui n'ont pas eu cette carte-là. Il faut savoir aussi qu'on a eu des récits de la Nakba par des gens qui l'ont vécu ou par leurs enfants. Il n'y a aucun doute sur toute la population réfugiée de Gaza. Elle est originaire essentiellement du sud de ce qu'aujourd'hui l'État d'Israël, de Jaffa à Ashkelon à Beersheba. Les récits qu'on a eus de la Nakba, ça s'est fait à coups d'avion, à coups de bombardement pour les Bédouins, les troupeaux étaient chassés devant. Il y a même l'épisode d'Ashkelon, Ashkelon pour les Palestiniens, de nombreux Palestiniens dont les villages avaient été détruits se sont réfugiés dans le centre d'Ashkelon et n'ont été expulsés qu'en 1952. Pour une bonne partie à Gaza, à une autre partie en Cisjordanie, il y a eu des familles qui ont été comme ça séparées. Il va y avoir l'épisode égyptien entre 49 et 67. Gaza est administrée par l'Égypte. Pour vous dire le bon souvenir que les Égyptiens ont laissé à Gaza, tous les gens qui nous en ont parlé parlaient de l'occupation égyptienne. En tout cas, c'est une période de très très grande pauvreté, avec au milieu de cette occupation un épisode tragique. En 1956, les troupes israéliennes alliées aux impérialistes français et britanniques attaquent l'Égypte, occupent Gaza et le Sinaï. Mais à Gaza, il va y avoir plus de 500 morts et un assez grand nombre de crimes de guerre. La bande dessinée de Joe Sacco raconte assez bien cet épisode-là. C'est pendant l'occupation égyptienne que l'OLP va naître. D'abord Ahmed Choukairi et puis assez rapidement Yasser Arafat. Ce sont pour la plupart des Gazaouis, des gens qui ont fait leurs études au Caire. En tout cas, le Fatah est né quelque part à Gaza et au Caire, hein, de cette occupation-là. En 67, les Israéliens occupent la totalité de la Palestine historique. Et à Gaza, ils vont installer aussi des colonies. Ces colonies, les plus fameuses, c'est Netzarim, là où le petit Mohamed sera tué au début des années 2000, c'est Gush Katif. À la différence des colonies de Cisjordanie, ces colonies occupent un très large espace, mais elles sont très peu peuplées, puisque quand Ariel Sharon décidera l'évacuation des colonies en 2005, c'est 8 à 9 000 colons de Gaza qui vont être évacués, avec un cinéma pas possible. Si vous avez vu ces images télévisées des colons qui s'enchaînaient devant la vaillante armée israélienne qui venait les expulser et tout, 8 à 9 000, on comprend bien que par rapport aux 800 000 colons qu'il y a en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ce n'est pas grand-chose. Dans toute cette période-là, Gaza va devenir un grand réservoir de travailleurs immigrés pour Israël, sans doute un peu plus de 200 000 qui faisaient assez régulièrement le voyage. Et les Gazaouis étaient assez appréciés par les patrons israéliens, qui trouvaient là une main-d'œuvre bien formée et à bas prix. Les Gazaouis en gardent l'image de « oui, on a été exploité, mais on était quand même libre de circuler », ce qui n'est évidemment plus le cas maintenant. La paix entre Israël et l'Égypte, initiée par le président Carter, est signée définitivement avec le voyage de Sadat à Jérusalem, va être une paix anti-palestinienne, puisque ça va faire que l'Égypte va devenir, et ça existe maintenant depuis 45 ans, un complice d'Israël. Pour vous donner une idée de qu'on nous a raconté à Gaza, la première mesure que l'Égypte prend quand elle récupère le Sinaï, les pêcheurs de Gaza pouvaient aller pêcher jusqu'au canal de Suez. Et la première mesure que l'Égypte prend, c'est de leur interdire de pêcher au large des côtes du Sinaï et donc de restreindre de 80% leur zone de pêche. La première intifada en 1987 va démarrer à Gaza, notamment dans un des 8 camps de réfugiés de la bande de Gaza, le camp de Jabalia au nord. La montée du Hamas n'est pas spécifique à Gaza. Elle a été voulue en tout cas à Gaza, c'est-à-dire que pendant toute une large période, les Israéliens interdisaient complètement toute espèce de développement économique, la création d'ateliers, de petites usines ou tout à Gaza. Par contre, les mosquées, on pouvait en construire autant qu'on en voulait. Et puis, évidemment, pour les Israéliens, il y avait un intérêt qui était qu'il y ait un mouvement concurrent de l'OLP dont la direction était laïque. Mais dès que le Hamas est devenu puissant, Israël a assassiné le cheikh Yassine, a assassiné Ahmed Rantissi. Et donc l'intérêt pour les Israéliens, c'était de toute façon de ne pas avoir de partenaire pour la paix et surtout qu'il y ait une grande division palestinienne. Après les accords d'Oslo en septembre 1993, les deux premières zones entre guillemets autonomes palestiniennes, c'est Gaza et Jéricho. à Gaza, Yasser Arafat va faire un retour absolument triomphal avec des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il y a un immense espoir qui sera très rapidement terni. C'est-à-dire que Arafat, qui s'occupait uniquement de grande politique, va installer à la tête de Gaza des mafieux, un de ses frères qui sera assassiné d'ailleurs, mais qui était corrompu jusqu'à l'os, et un qui maintenant est l'homme lige des Émirats arabes unis, qui est Mohamed Dahlan, dont je parlerai un petit peu après, dans la guerre civile palestinienne qui va démarrer. Gaza a été évacué par Sharon en 2005.
On peut juste couper là.
Vas-y, bien sûr.
De Gaza et Jéricho. Alors, je sais que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais comme on a été à Jéricho et qu'on a vu qu'il y avait un statut particulier, mais sans qu'on le... Tu peux juste dire pourquoi Jéricho et...
C'est juste que ce sont les deux premières zones avant qu'il y ait les accords zone A, zone B, zone C qui fracturent complètement la Palestine, sont signés entre Arafat et Rabin 2 mois avant l'assassinat de Rabin, donc en septembre 1995. Là, il y aura la zone A, dont tout le monde sait, quand on a été en Cisjordanie, que c'est une autonomie factice. Mais avant zone A, zone B, zone C, il y avait Gaza et Jéricho que l'embryon d'autorité palestinienne gérait. Moi, je suis allé à Jéricho en l'été 1994. Il y avait un checkpoint à l'entrée avec des soldats falacha côté israélien et côté palestinien, des policiers enjoués qui te distribuaient des tas de t-shirts ou de... Comment ça s'appelle de badges à la gloire de la Palestine, voilà, qui était censée exister sur deux terrains, Jéricho et...
Mais du coup, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi Jéricho et pas Ramallah ou...
Oui, mais c'est sans doute parce qu'à ce moment-là, dans les plans de colonisation qui étaient prêts depuis 1967, Jéricho n'était pas un enjeu. Voilà.
Il y avait un casino à Jéricho.
Il y a eu ce fameux casino qui a été, juste après les accords d'Oslo, qui a été fermé, mais où j'ai eu un moment un espoir de paix, parce qu'on voyait des photos de rabbins enjoués, souriants, sortant du casino. Le jeu est formellement interdit dans la religion juive, donc je me disais, s'ils transgressent, c'est qu'il y a peut-être un espoir. Ça n'a pas duré. Ouais. Alors, j'arrive à Gaza un petit peu aujourd'hui. Gaza, il faut bien comprendre que vu le nombre de réfugiés, l'UNRWA joue un rôle fondamental. Les écoles de l'UNRWA, l'alimentation faite par l'UNRWA. Alors les écoles de l'UNRWA, il faut comprendre que l'UNRWA a des moyens en baisse permanente, que Israël veut que ça disparaisse. Et donc aujourd'hui, ces écoles-là, il y a des cours le matin pour les uns et des cours l'après-midi pour les autres. Mais malgré tout, Gaza est une société extrêmement éduquée. Il y a 35% d'illettrés en Égypte, il y en a 1% à Gaza. Et voilà, tout le monde va à l'école avec les familles qui poussent absolument les enfants à essayer d'aller le plus loin possible. Gaza, Sarah le dit souvent, c'est une société normale dans un contexte totalement anormal. C'est une société stratifiée, c'est-à-dire qu'il y a des riches, il y a des hôtels de luxe, il y a des grandes maisons, comme en Cisjordanie. Il y a une division entre guillemets, les Gazaouis de souche et les réfugiés. Alors évidemment, en 75 ans depuis la Nakba, les choses se sont aplanies. D'abord, il n'y a plus que 42% des gens qui ont le statut de réfugiés, qui vivent dans les 8 camps de réfugiés. Donc 58%, la majorité des réfugiés sont sortis. La grande différence entre les uns et les autres, c'est la question du foncier, les bâtiments et les terres agricoles. Parce que voilà, les Gazaouis de souche ont gardé la société traditionnelle, notamment rurale, avec les moktars, les chefs traditionnels, tandis que les réfugiés, évidemment, n'ont pas ces biens-là. Gaza vit en grande partie, parce qu'il y a un taux de pauvreté absolument énorme, de l'aide de l'émigration. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de... D'abord, il y a 50 000 familles qui sont à la fois égyptiennes et gazaouis. Et puis, il y a surtout un certain nombre de gazaouis, dont un frère, un oncle, etc., sont en Suède, en Espagne, aux États-Unis, à Koweït, dans les Émirats, et qui envoient des aides. L'évacuation des colonies faites par Sharon, Sharon avait compris que pour coloniser la Cisjordanie, qui était le principal atout. Ça ne servait à rien d'avoir des milliers d'hommes à l'intérieur de la bande de Gaza, il valait mieux la boucler. C'était certainement un des plus politiques des salopards sionistes. Et son évacuation a été un trait de génie. C'est-à-dire que ça a transformé Gaza en une prison à ciel fermé. Les élections de 2006 ont été les élections palestiniennes ont été des élections totalement transparentes. Les résultats, quand on les regarde en chiffres, c'est 42,8% pour le Fatah, pour le Hamas, 39,2% pour le Fatah, et le reste dispersé en une dizaine de listes, principalement de gauche. Donc avec le mode de scrutin, le Hamas s'est retrouvé avec une assez nette majorité au Parlement palestinien. Ne pensez pas que la bande de Gaza a voté différemment de la Cisjordanie. Là, il y a plusieurs départements, districts dans la bande de Gaza. Le district de Gazaville a assez nettement voté Hamas, je crois à 55%, un truc comme ça. Mais par exemple, Rafah, qui est la ville frontalière avec l'Égypte, a voté Fatah. Ces votes étaient sur des, je dirais pas du clientélisme, mais des traditions politiques qui n'ont en plus rien à voir avec la pratique religieuse, parce que Rafah n'est pas une ville plus religieuse que, ou moins religieuse que Gaza. Mais en tout cas, il y a eu un gouvernement d'union nationale qui a été, avec la direction d'Ismaël Haniyeh, qui a été proclamé par le Mahmoud Abbas, qui était président de la Palestine. Et immédiatement, la communauté internationale a supprimé toute aide. Alors il fallait comprendre que depuis les accords d'Oslo, c'est l'Europe qui payait, qui finançait l'autorité palestinienne pour payer les salaires des fonctionnaires. Et donc ça a créé une crise économique absolument terrible, parce qu'un fonctionnaire, en général, faisait vivre une dizaine de personnes. Et particulièrement à Gaza, où très rapidement le blocus s'est installé, c'est à ce moment-là que Dahlan, le mafieux, avec des assurances américaines, a fomenté un coup d'État. Donc là, on a eu la sûreté dans nos voyages à Gaza que c'est bien le Fatah qui a déclenché en 2007 la guerre civile. C'est un truc de fou. C'est là où on voit que Dahlan est un mafieux. Il a donc préparé un coup d'État. Et la veille du coup d'État, il a vu qu'il allait perdre. Donc il s'est enfui et il a laissé ses compagnons se faire massacrer. Il y a eu officiellement plus de 115 morts côté Fatah, des divisions absolument terribles. On ne peut pas dire que le Hamas ait prémédité sa prise du pouvoir. Il a pris le pouvoir suite à un coup d'État que lui n'avait pas initié. Bien évidemment, quand il a eu le pouvoir, il s'en est bien servi et il l'a bien utilisé. Gaza, c'est un territoire bloqué. Il faut comprendre que sur toute la frontière orientale, il y a une barrière de haute technologie. Vous avez sans doute vu les images de la marche du retour où on voit cette barrière. Et tous les 250 mètres, il y a un mélange de Moyen-Âge et de modernité. C'est des tortueuses, des tours qui sont fermées, mais qui sont télécommandées depuis Tel Aviv et qui s'ouvrent de temps en temps et qui tirent. Et il y a eu de nombreux paysans ou des gens ramassant des divers objets s'étant approchés de la barrière qui ont été tués par ces tours-là. Il y a deux points de passage pour les personnes. Erez, côté israélien, mais où de moins en moins de personnes passent, puisque le nombre de Gazaouis qui ont des permis de travail en Israël est 10 à 15 fois moins important aujourd'hui que ce qu'il a été avant l'intifada. Et côté Rafah, il y a la possibilité de sortir pour les Palestiniens, à condition évidemment qu'ils aient des visas d'entrée ailleurs, ce que la plupart n'obtiennent pas. L'Égypte est complètement complice. Il y a un système mafieux où tout le monde s'enrichit entre le Hamas et l'Égypte. Pour les Palestiniens, quand ils sortent en Égypte, ils sont humiliés, les jeunes notamment, qui sont conduits directement de Rafah à des centres de rétention de l'aéroport dans des conditions assez innommables. Enfin, tous les Palestiniens jeunes qui sont sortis par Rafah décrivent des humiliations pas possibles dans cette sortie-là. Et puis, il y a eu un moment, les tunnels, qui avait permis d'alléger un petit peu les pénuries à Gaza. Sisi a détruit toutes les habitations qui étaient le long de la frontière. Il faut comprendre que la ville de Rafah, c'est une division artificielle. Il y avait deux tiers de la ville à Gaza et un tiers de la ville en Égypte. Mais c'était les mêmes familles. Les tunnels, ils allaient de Mohamed, qui était Gazaoui, à Mahmoud, qui était son cousin en Égypte. Sissi a détruit, a expulsé plusieurs milliers d'Égyptiens qui habitaient le long de la frontière. Il a inondé les tunnels. Il reste, mais les tunnels, c'était des véritables terminales. Hein. J'ai vu ça. C'était, il y avait les zones de douane et tout. Enfin, c'était un truc assez, assez invraisemblable. Des trucs fous sont passés par là. Il n'y a pratiquement plus rien qui passe maintenant, sauf les cigarettes et la drogue, quoi, à peu près, qui rentrent à Gaza. Gaza est bouclé par mer. Il y a une super façade maritime de 40 km avec des belles plages. Une pollution pas possible. De temps en temps, la justice aidant, les vents mènent la pollution jusqu'à Tel Aviv, mais malheureusement, c'est assez rare. Donc les Israéliens ne souffrent pas de la pollution qu'ils ont engendrée à Gaza. Et puis surtout, il y a des vedettes maritimes en permanence qui interdisent les pêcheurs, j'en parlerai plus tard, et les entrées des internationaux par la mer. La réconciliation entre les factions rivales à Gaza, on a vu tous les partis politiques à Gaza, y compris le Hamas, y compris le Fatah, elle est impossible. Elle est impossible parce que des intérêts économiques maintenant sont énormes à Gaza. Il y a deux fonctions publiques, j'ai envie de dire trois fonctions publiques. Vous avez à Gaza, en gros, les médecins et les professeurs qui sont payés par Ramallah. Il y a 40 à 50 000 fonctionnaires qui sont payés par Ramallah à la condition qu'ils ne travaillent pas. Et il y a le Hamas qui a recruté avec des salaires inférieurs parce qu'il a moins d'argent, sa fonction publique, donc aussi sur des bases clientélistes. Et chaque fois qu'il a été question de gouvernement d'union nationale ou de réconciliation, ceux qui foutaient rien sont arrivés dans les bureaux de ceux qui bossaient à leur place avec des salaires inférieurs en disant « Loi de là que je m'y mette », et évidemment ça ne pouvait pas marcher. Il y a des intérêts économiques de part et d'autre qui sont tels qu'aucun n'a un intérêt. Bon, chacun a essayé de piller au passage la distribution d'électricité ou d'essence ou d'autres avec des taxes. Et on ne voit pas comment, dans la situation actuelle, en tout cas avec les directions politiques actuelles, qu'il y a une réconciliation serait possible. Tout le monde à Gaza dit que c'est une honte. Il nous manque un Mandela, mais c'est comme ça. Il y a eu en 2019 les marches du retour. Elles n'ont pas été organisées par le Hamas. Elles ont été spontanées. Depuis des années, il y avait des groupes qui voulaient faire ces marches du retour et le gouvernement de Gaza leur interdisait. Et puis, en 2019, il a autorisé. En fait, les initiateurs de ces marches pensaient que l'indignation devant les snipers israéliens estropiant et tuant tranquillement à l'abri dans des stands de tir provoquerait des manifestations dans le monde qui arrêteraient l'agresseur. Et ça n'a pas arrêté. Et donc, voilà. Mais en tout cas, ça a été au départ auto-organisé. Je vais continuer à parler du blocus. Donc, je vous ai parlé de l'humiliation que l'Égypte inflige à la Palestine. Il y a humiliation aussi côté israélien. À chaque massacre, notamment Plomb durci 2008-2009 et Bordure protectrice 2014, il y avait des Israéliens et des journalistes installés sur des buttes près d'Ashkelon, près d'Erez, et regardant tranquillement les bombardements comme à la foire, quoi. C'était un panorama. Le blocus, ça veut dire que vous avez les 20% de terres agricoles qui restent à Gaza. Elles sont principalement sur la zone Est, la zone tampon, buffer zone en anglais. C'est là où il y a les terres les plus fertiles. Et les Israéliens essaient à tout prix d'empêcher les Palestiniens de s'approcher de la barrière. Donc ils ont déclaré des zones d'interdiction. Vous imaginez que quand on interdit de cultiver à un kilomètre de la barrière, c'est, on bouffe un quart des zones agricoles de Gaza. Et donc toute la lutte des paysans, ça a été d'essayer de cultiver le plus près possible de la barrière. Et en particulier dans les années 2010, il y avait des internationaux avec des gilets jaunes qui protégeaient les paysans en se mettant face aux Israéliens pour les empêcher de tirer. Les Israéliens tiraient quand même, mais ils tiraient au-dessus. Mais en tout cas pour permettre aux paysans de pouvoir cultiver jusqu'à la barrière. Dans cette zone tampon, les incursions sont permanentes. De temps en temps, la nuit, les chars rentrent et labourent les terres. Ils déversent des désherbants, ils mettent des affiches pour les paysans en signalant qu'il est interdit de cultiver et qu'ils vont empoisonner la zone. Alors, il faut comprendre que le blocus, ça veut dire interdiction de produire. Et par exemple, on en a la preuve à chaque bombardement qu'il y a eu sur la zone de Gaza. Qu'est-ce qui est bombardé en priorité? La centrale électrique, donc on comprend bien l'intérêt militaire, n'est-ce pas? Les stations d'épuration des eaux, les fermes à poulets, les fabriques de yaourts, les ateliers de réparation. C'est-à-dire que l'idée pour les Israéliens quand ils attaquent Gaza, c'est que Gaza devienne... Voilà, que les Gazaouis soient les Amérindiens du Proche-Orient enfermés dans leurs réserves et prisonniers complètement. Les tentatives de briser ce blocus, il y a eu des tentatives venant de l'extérieur. Alors, les premières flottilles sont passées. Vittorio Arrigoni, qui est venu en voilier depuis l'Italie, il est passé en 2010, il sera assassiné en 2011 à Gaza. Donc les premières flottilles sont passées et après les Israéliens ont décidé de bloquer complètement. Il y a eu la grande flottille dans laquelle le bateau amiral était le Mavi Marmara qui a été attaqué avec 10 morts, c'était un ferry boat turc. Et puis depuis, toutes les flottilles ont été arraisonnées en eau internationale sans aucune protestation de la dite communauté internationale et avec... Les morts, ça a été uniquement le Mavi Marmara, mais par exemple, Sarah, qui était sur le Alaouda, le retour, elle a été raisonnée à 80 km des côtes gazaouis, avec quand même une assez grande violence de la part de l'armée israélienne, et emprisonnée ensuite 3 jours à la prison de Givon. Les tentatives de sortir de Gaza ont également échoué. Les Israéliens ont dynamité dans le port de Gaza, l'Arche de Gaza, qui était un bateau que les solidaires canadiens finançaient pour sortir de Gaza, pour montrer au monde extérieur ce que Gaza produisait. Les pêcheurs ont sans arrêt des zones d'interdiction qui vont de 3 km à 10 km là où il n'y a pas de poisson, quoi. Gaza était un grand port de pêche et maintenant les pêcheurs, c'est vraiment la misère de la misère. Et à Gaza, on consomme du poisson israélien parce qu'on empêche les pêcheurs de pêcher, mais c'est un marché captif. Il faut savoir que tous les pêcheurs qui ont été arrêtés, dont les bateaux ont été confisqués, d'abord, ils ont eu des offres de collaboration des autorités israéliennes. Jamais les Israéliens n'ont trouvé le moindre objet suspect sur les bateaux, mais ils en ont détruit beaucoup, ils en ont confisqué beaucoup. Et maintenant, les chaluts notamment, tout ça, ça n'existe plus. À Gaza, les marchandises rentrent par Keren Shalom, ça c'est le mot hébreu, Avi Salam en Salem. Ça touche la zone frontière de Rafah. On s'est promené tranquillement dans Keren Shalom en 2016. Les camions qui sortent de Gaza sortent à vide, parce que Gaza n'a pas le droit d'exporter, et ils rentrent pleins. Et Gaza est un marché captif, c'est-à-dire qu'Israël y déverse tous les produits de mauvaise qualité et que les Palestiniens sont obligés de bouffer la plupart du temps, sauf heureusement les légumes et les poulets qu'ils arrivent à produire, parce que sinon ils vont crever de faim. Et par contre, il y a un nombre incroyable de denrées interdites, j'en cite ici quelques-uns, les couveuses à poussins, qui sont des armes de guerre bien connues, hein, le ciment. Donc quand on a financé le château d'eau de Gaza, ça a été avec du ciment de contrebande parce que, au marché noir, parce qu'il y a très, très peu de ciment à Gaza. La fibre de verre qui servirait beaucoup pour les bateaux et pour la construction. Les médicaments anticancéreux. Donc un pêcheur gazaoui nous expliquait que fait prisonnier à Ashdod, les Israéliens lui ont dit « Tu sais, ta mère a un cancer, si tu veux qu'elle se soigne, il faut que tu travailles pour nous. » Et ça, c'est comme ça qu'on devient aussi collabo en Cisjordanie et à Gaza. Les pénuries... Sur le marché captif, je dois signaler qu'il y a une volonté délibérée que Gaza et la Cisjordanie ne communiquent pas. Et je cite une anecdote. Le premier ministre hollandais de Rutte, je crois, en visite en Israël et en Palestine, vient à Gaza, on doit être en 2013, quelque chose comme ça, et il voit le fait que Gaza pourrait exporter des tas de choses que la Cisjordanie ne produit pas. Et donc, ça améliorerait les conditions des deux côtés. Et il demande aux Israéliens pourquoi ils n'exportent pas. Lieberman, qui est ministre de la Défense, répond parce que c'est des terroristes et qu'ils mettraient des bombes et des armes dans les camions. Et le premier ministre hollandais dit il n'y a pas de problème, nous produisons des scanners à camions. Et voilà, comme ça, vous pourrez voir qu'il y a uniquement des légumes ou des fruits dans les camions. Il revient 6 mois après pour inaugurer un scanner à camion. Et là, Israël dit, ben, vous n'avez pas bien compris, la décision que la Cisjordanie et Gaza ne communiquent pas, c'est une décision politique du gouvernement israélien. Et il est reparti sans inauguration et sans protestation. Ça fait partie de tout ce que la communauté internationale qui a financé l'aéroport pulvérisé, qui a financé le port pulvérisé, fait. Voilà. Il y a eu, je vais parler un petit peu des trois grands bombardements. Les Israéliens leur ont donné des jolis noms. Plomb durci, c'est un poème de Bialy, qui était un grand poète qui au début écrivait en yiddish. Pilier de la défense et puis bordure protectrice. Tout ça, ils donnent des jolis noms. C'est quand même des milliers de morts, hein, 1500 morts pour... Plomb durci, 2008-2009, 180 pour pilier de la défense, 2400 pour bordure protectrice, 350 pour les marches du retour. Ce qui est assez incroyable quand on y va, c'est d'abord la réaction internationale, quoi. Je pense celle de la France. Quand il y a le cessez-le-feu début 2009 sur Plomb durci, Sarkozy, qui est président de la République, dit « je vais envoyer des sous-marins au large de Gaza » pour empêcher le Hamas de construire des tunnels. Et 2014, quand il y a les bombardements de l'ambassade française à Tel Aviv, organise un bal de soutien à Israël, c'est sous Hollande. Quand on regarde un peu les destructions, parmi les immeubles rasés, on a vu ce qu'on appelle, on l'a en photo ici, on a vu la tour italienne. Il y a énormément de très grands immeubles à Gaza, vu la densité de population. Pourquoi on l'appelait la tour italienne? Parce qu'il y avait le consulat italien. Ils ont eu 15 minutes pour évacuer. Il reste un squelette de tour. Il y avait... Vous croyez que l'Italie a protesté? Non. Le consul adjoint du consulat de Jérusalem à Gaza, c'était un franco-palestinien. Sa voiture a été mitraillée, sa maison a été visée et pulvérisée. Et il avait un cancer, il a fallu que le consul de Jérusalem vienne le chercher pour l'exfiltrer de Gaza pour qu'il se soigne. Vous croyez que la France a protesté ou a fait quoi que ce soit? Non, elle a juste envoyé son consul pour exfiltrer le consul adjoint. Et il n'y a évidemment eu aucune protestation. On sait que dans toutes ces agressions, des armes interdites ont été utilisées, l'uranium appauvri, les bombes à fragmentation. On a retrouvé des armes françaises qui ont été utilisées, qui sont fabriquées à Pont-de-Buis dans le Finistère. Il y a eu des quartiers qui ont été complètement pulvérisés à Grafa et surtout à Shujaïa. Et puis les immeubles qui ont sur le toit écrit UN, United Nations, ceux-là ont été complètement épargnés. Il y a... 5 à 6 façons d'amener la mort à Gaza. On a notre ami Abou Amir nous imiter les bruits. Il y a les F-16, les F-18 qui sont états-uniens mais qui volent avec une technologie israélienne. Il y a les hélicoptères Apache. Il y a les drones. Les rares moments où il y a l'électricité, si vous êtes chez quelqu'un qui a la télé est brouillée parce qu'il y a les drones qui passent. Il y a les tortueuses. Il y a les tanks qui sont rentrés et il y a la vedette maritime. Gaza, c'est une expérimentation de ça. Une autre chose qu'on ne sait pas trop, quand il y a eu ces guerres-là, une partie importante du territoire gazaoui a été occupée. Notamment en 2014, pendant 50 jours, toute la zone rurale, tous les villages de l'Est et tout ont été occupés. Le Houza, là où on travaille et tout, a été occupé pendant 50 jours. Toutes les maisons ont été détruites, sauf celles où l'armée israélienne a mis son QG. Et il y a eu donc des centaines de milliers de réfugiés dans les grandes villes, dans les écoles des grandes villes notamment. et à Gaza, à Khan Younis ou à Rafah. Et quand il y a eu des bombardements des écoles de l'UNRWA ou du quartier de Choujaïa, ce n'était pas des bavures, c'était quelque chose de délibéré. Je vais parler un peu de la vie des Gazaouis en cage. À Gaza, c'est un peu vrai dans toute la Cisjordanie, 65% de la population a moins de 25 ans. Ces gens ne sont jamais sortis de la cage. Ils vivent dans un... Ils butent dans un territoire de 10 km sur 40, alors que la plupart sont hautement éduqués, que beaucoup ont fait l'université, et qui connaissent donc des langues étrangères, qui connaissent le monde extérieur par Facebook, mais ils ne sont jamais sortis. Au niveau de l'enfance, tous les jeunes enfants sont traumatisés parce qu'ils ont vu des scènes terribles, ils ont connu des bombardements, ils ont dû se cacher, ils ont vu des morts, des blessés, des estropiés. Et ceux à qui on vient en aide, notamment Ibn Sina, Avicenne, qui... La 4ACG vient d'envoyer de l'argent. La plupart du temps, les actions qui mènent auprès des enfants, c'est sur les traumatismes et c'est sur l'aide psychologique. C'est apprendre aux enfants à survivre malgré ces traumatismes-là. Quand il y a eu les derniers bombardements de Gaza, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils amenaient une troupe de clowns dans les quartiers qui avaient été bombardés pour enlever le stress des enfants. À Gaza, j'ai dit, il y a un très haut niveau d'éducation. Il y a pas d'illettrisme. Il y a 100 000 étudiants dans 6 universités. J'ai visité ces universités, notamment en maths, puisque j'étais prof de maths. Je peux assurer que le niveau est tout à fait comparable aux universités françaises. Ils ont 21 000 diplômés. Il n'y a pas de thèse à Gaza. Les rares qui veulent faire des thèses, il faut qu'ils obtiennent des invitations à l'étranger, des autorisations de sortir. Donc il y a 21 000 diplômés chaque année, dont la quasi-totalité se retrouve au chômage. Et on commence à avoir du coup des boat people, des gens qui fuient Gaza, qui essaient par tous les moyens de partir vers l'Europe ou ailleurs. Et on a eu des récits par les familles de jeunes qui ont été boat people, dont un qui était ingénieur, qui a réussi à sauver un bateau entre la Turquie et la Grèce parce qu'il savait comment remettre le moteur en marche. Voilà, et il commence vraiment à y avoir maintenant l'envie de fuir qui n'existait pas jusqu'à présent et qui est très très bloquée par le fait qu'ils n'ont pas d'invitation. Comment Gaza survit ? Ben, très souvent, ceux qui savent quelque chose, ceux qui ont une formation, ils la mettent au service des autres. Je donne deux exemples qui nous ont particulièrement frappés. À Betlaya, dans le nord de la bande de Gaza, un quartier complètement déshérité, un ambulancier qui, lui, est salarié et qui vient expliquer aux jeunes parents, femmes et hommes, dans un centre social où il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, les rues ne sont pas asphaltées, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaises et tout. Il vient expliquer aux jeunes parents, voilà, on a eu plusieurs guerres, il y en aura d'autres. Voilà ce qu'il faut faire en cas de bombardement, voilà comment faire les premiers secours. Et puis, il y a l'hôpital Shifa, qui est le plus grand hôpital de Gaza, et où il n'y a pas de psychologue. Il y avait une psychologue salariée dans le plus grand hôpital de Gaza. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris sa page Facebook et elle a dit « Je veux des psychologues diplômés qui accepteraient de travailler gratuitement. » Elle a eu 100 réponses. Elle a fait passer un examen écrit et oral. Elle a pris les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes. Et ces gens travaillent gratuitement à l'hôpital Shifa pour aider le personnel, pour aider les malades. Et quand on leur demande pourquoi vous travaillez gratuitement, ils répondent parce que on a un savoir, on est diplômé, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. Et puis en travaillant, un jour, le blocus s'arrêtera et on aura d'expérience, on aura du travail. C'est assez ça à Gaza. Il y a des lieux où la société apprend un peu à vivre, notamment l'Institut français de Gaza a un petit peu ce rôle-là pour les francophones de Gaza. On avait animé une discussion passionnante à l'Institut de Gaza sur « Faut-il éduquer de la même façon les petits garçons et les petites filles ?» Vraiment une discussion. Le consul, celui qui tenait l'Institut, voulait qu'on soit apolitique. Là, il a loupé son coup. À Gaza, il y a un petit peu moins qu'en Cisjordanie la question des prisonniers qui se pose. Il y a 350 prisonniers, souvent avec de très longues peines en Israël. Ils ont un problème particulier, c'est que les visites sont rendues quasiment impossibles par le blocus et par le fait que très rarement ils obtiennent des autorisations. Et il y a régulièrement donc des marches, des manifestations des prisonniers, des familles des prisonniers dans Gaza tous les lundis avec leur effigie et qui confirment qu'en prison, on torture. La pauvreté touche 65% de la population à Gaza. 80% de la population reçoit une aide quelconque, principalement de l'UNRWA. La vie est assez chère, donc, donc les paysans, quand ils arrivent à produire, ils se heurtent au fait qu'il y a très très peu de Gazaouis qui ont les moyens d'acheter des produits. Les huit camps de Gaza sont complètement surpeuplés. À Gaza, il y a un énorme problème des handicapés, parce que les Israéliens ont délibérément estropié une partie de la population. Donc, ben, Iyad Alastal a fait tout un travail avec les footballeurs handicapés, avec comment ils réussissent malgré les handicaps à vivre. Les hôpitaux sont en tension permanente et il y a toute une série de soins qui ne sont pas assurés à Gaza. La psychiatrie, les cancers, il n'y a pas de radiothérapie. Gaza survit avec tout un tissu d'associations petites et grandes. Alors les grandes, c'est le PCHR, le Centre palestinien des droits de l'homme, l'UAWC, le syndicat des travailleurs agricoles, le PARC. Ces grandes associations, souvent, sont animées par des militants de gauche qui ont plus ou moins quitté les partis, notamment le FPLP, en pensant qu'ils seraient plus utiles aujourd'hui dans la défense de la société à travers ces grandes associations, plutôt que dans les partis politiques qui ont peu aujourd'hui de moyens d'action. Mais il y a surtout à Gaza un réseau incroyable de toutes petites associations qui assurent le préscolaire, le périscolaire, les soins de première nécessité, le partage des recettes, des expériences. Et Gaza survit avec ces petites associations. Il y a quand même quelque chose qui commence un peu à diminuer, mais qui a toujours été vrai. On ne laisse personne à l'abandon à Gaza. Quand quelqu'un est orphelin, il est immédiatement adopté. Quand quelqu'un est dans la misère, il va être aidé. Il y a très, très régulièrement, avec des dons souvent venant de l'étranger, des distributions de vivres, notamment pendant le Ramadan et tout. Et il y a en tout cas cette idée de solidarité qui existe, au point qu'un Gazaoui qui était à Paris et il était avec nous dans le métro, il voit des gens qui m'ont dit dans le métro, tout le monde connaît ça, il dit mais c'est pas possible, ce qu'il raconte c'est pas vrai. On lui dit, si, c'est vrai, il y a des gens qui vont mourir de froid dans Paris cet hiver. Et il dit, chez nous, c'est pas possible. Gaza, c'est aussi, ça avait énormément ému Stéphane Hessel et sa femme Christiane qui a préfacé notre livre collectif. À Gaza, on fait la fête. Si vous avez vu, il y a la Gaza, vous voyez un petit peu, on fait la fête. Il y a la Dapke, il y a beaucoup de sport. Et il y a du skate, c'est-à-dire que les gens essaient, dans des circonstances effroyables, de continuer de vivre. Souvent, ils disent « vivre, c'est résister ». Je vais terminer avec une partie plus politique. Les partis à Gaza, on les a tous rencontrés quasiment pendant notre séjour en mai 2016. Il y a une flopée de petits partis de gauche, mais pas très importants, le PPP, qui est l'équivalent du Parti communiste, l'UDA, l'Union démocratique, le FDLP de Nayef Awatmé, qui a été très important dans les années 80, 70, mais qui l'est beaucoup moins maintenant. Ces petits partis de gauche, ils ont très très peu de militants, ils sont très très anti-Hamas. Vraiment, tous nous ont décrit quand même la façon dont le Hamas développait sa mainmise sur le territoire de façon très critique. Il y a le FPLP qui, lui, est plus important, donc Front Populaire Libération de la Palestine. Et si je vais à Gaza en juin, ça va être avec eux. Ça a été historiquement un parti très important, donc le parti de Georges Habash. Aujourd'hui, Ahmed Sadat est en prison pour de nombreuses années. Son ancien, celui qui avait succédé à Habash, a été assassiné par les Israéliens. Et en réponse, le FPLP avait tué le Rehavam Tzvi, qui était un criminel de guerre israélien, qui était ministre du Tourisme. Salah Hamouri est réputé membre du FPLP, même s'il ne l'a jamais dit. Ils sont en perte d'influence parce que, voilà, ils ont un problème générationnel, mais ils ont... J'avais rencontré le secrétaire général Rabah Mohanna, qui est décédé depuis. Le personnage emblématique du FPLP à Gaza, c'est Dr Amariam, qui est interviewée dans Yalla Gaza. Elle est, quand on va chez elle, il y a une photo où elle est en Kalachnikov avec Leila Khaled à son côté, à l'époque où elle combattait. Bon, ils ont pratiqué la lutte armée, ils sont très très respectés. Quand à Gaza, les partis politiques fêtent des anniversaires. Quand le FPLP fait son anniversaire, il a plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue. Mais la jeunesse se tourne plus vraiment vers eux, déjà vers les partis politiques, pas, et pas celui-là. Donc ils ont un problème à la fois de difficulté de communiquer avec le FPLP de Cisjordanie, de difficulté de féminisation et de rajeunissement, mais ils essaient. Ils ont mis un assez grand nombre de femmes ou de jeunes dans leur comité directeur. Voilà, ils sont respectés. Et là, voilà, s'ils nous font rentrer dans Gaza, ils auront fait quelque chose, à mon avis, d'assez important contre le blocus. Docteur Amariam, quand on la rencontre, elle nous dit « Je combats l'occupation et le patriarcat ». Donc il y a aussi la dimension féministe dans leur... Et le FPLP... a réussi formellement, si jamais un jour il y a des élections en Palestine, pour l'instant c'est remis au calendrier grec, une forme d'union de la gauche. Quoi. Tous les partis de gauche sont d'accord pour présenter une liste unique et pas des listes séparées comme les fois précédentes. Le Fatah existe à Gaza et on a fait deux rencontres complètement contradictoires. L'une d'une femme qui est présidente de l'Union des femmes palestiniennes, courageuse, avec un discours au vitriol contre le Hamas, accusé de toutes les formes de corruption, probablement pas à tort. Et puis un autre, une espèce de sbire de l'autorité palestinienne, expliquant que les Israéliens étaient stupides de ne pas respecter les accords d'Oslo. Un bureaucrate dont on peut penser qu'il survivrait à n'importe quel régime. Voilà, le Fatah, c'est un petit peu ça. Mais quand le Hamas avait autorisé... Le Fatah a fêté son anniversaire. Il y avait quand même eu aussi dans Gaza des dizaines de milliers de personnes dans la rue avec le drapeau du Fatah. Il est semi-clandestin, le Fatah, mais voilà, on a eu quand même pas trop de mal à le rencontrer. On a rencontré la direction du Hamas, Al-Astal, c'est pas Iyad, mais il s'appelle aussi Al-Astal, qui est le numéro 4 du régime, qui est le dirigeant du groupe parlementaire. On était au Parlement. On a eu une discussion très politique, des accusations au vitriol contre les collabos de l'autorité palestinienne, contre le Fatah, qui sont, à mon avis, toutes également justifiées. Donc voilà, on se trouve devant une impasse. Le Hamas réclame 60 000, enfin, dit qu'il y a 60 000 membres dans la bande de Gaza, dont une majorité de femmes. C'est les statistiques de 2016, hein, j'en ai pas d'autres. À un moment donné, on lui dit à Al-Astal et à notre député, la rumeur dit qu'il va y avoir des exécutions capitales dans Gaza. Il nous dit c'est dans la loi, mais on ne l'applique pas. Le lendemain, trois droits communs sont exécutés, fusillés. C'est des histoires de vendetta familiale. On est incapable, 7 ans après, de dire si il s'est foutu de nous, s'il ne savait pas, s'il n'a pas pu l'empêcher. Ce qui est sûr, c'est qu'à Gaza... Les services de sécurité sont plus forts que la branche politique. Et donc, si ça a été une décision des services de sécurité, les services de sécurité décident qui rentre et qui ne rentre pas. Et s'ils ont décidé d'exécuter, la branche politique n'y pouvait pas grand-chose. Et on a rencontré, là c'est beaucoup plus extraordinaire, on a des photos ici, on a rencontré le djihad islamique. Alors, le djihad islamique, c'est issu du Fatah, en fait, dans les années 80. Leur dirigeant historique a été assassiné par le Mossad à Malte, probablement sur dénonciation de l'autorité palestinienne, en 95. Ils sont pour la libération par la lutte armée de toute la Palestine, de la mer au Jourdain. À un moment, alors, les rencontrer, on a eu deux lapins. Et la troisième fois, on vient... Personne ne vient, c'est dans les appartements, vous avez pris trois taxis pour y arriver. Enfin, c'est, voilà. Et puis, brusquement, ils arrivent. Et puis, après, ils ne voulaient plus nous lâcher, l'Union juive française pour la paix. Ils étaient, Ils étaient aux anges de nous rencontrer. À un moment donné, donc, c'est la branche politique que j'ai rencontrée, puisqu'il y a eu des attentats qui ont tué les dirigeants de la branche militaire. À un moment donné, je lui dis, on suppose que vous gagnez, qu'est-ce que vous faites des juifs israéliens? Il me répond, mais il n'y a pas de problème, c'est dans le Coran, tous ceux qui étaient là avant 48, ils restent. Je lui dis, mais vous savez bien que l'écrasante majorité des juifs israéliens sont nés après 48 et dans ce qui est aujourd'hui Israël. Et il me prend par les épaules, il dit, mais oui, mais tu sais, ça c'est la position avant une négociation, après on verra. Et le djihad c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre incroyable de martyrs. Quand je suis chez eux, il y a les effigies de tous ceux qui sont tombés ou de ceux qui sont en prison. Le dirigeant, il a fait lui-même 3 ans de prison, il a son fils qui était en 2016 depuis 14 ans en prison. Là, il y a celui qui est dans le film « Derrière les fronts », qui est aussi du djihad islamique, qui est en grève de la faim depuis 75 jours. Enfin, le nombre de martyrs qu'ils ont. Eux, à la différence des autres, il n'y a aucun cas de corruption chez eux. C'est vraiment, ils ont l'image à la fois d'une clandestinité rigoureuse et du fait que ce sont des gens parfaitement honnêtes. C'est un mélange de nationalisme et de religion. Et ils sont très estimés. Et dans les prisons, chaque fois qu'il y a des clashs entre Fatah et Hamas, c'est le FPLP marxiste et le djihad islamique nationaliste religieux qui font le tampon et qui réussissent à réconcilier. Chaque fois qu'il y a eu des mouvements des prisonniers, ils ont été pour beaucoup dans les déclarations communes qui ont été faites. Alors parler de la vie politique, il faut parler du BDS qui existe à Gaza. On a rencontré leur dirigeant emblématique est un universitaire, Haider Haïd, qui a fait ses études en Afrique du Sud, donc évidemment qui est très imprégné de la lutte anti-apartheid telle qu'elle a été faite en Afrique du Sud. Lui, c'est un marxiste clair. On a posé systématiquement à Gaza 2 questions, un État, 2 États, et pourriez-vous vivre avec les Juifs? Alors un État, 2 États, les réponses ne sont pas du tout celles que vous pouvez imaginer. Tous les gens qui disent un État... Bon, par exemple, une copine du FPLP, oui, un État, mais avec drapeau palestinien, un seul État. Alors, comment ils disent le FPLP, laïque et démocratique, où vivrez ensemble, l'ordre n'est pas neutre. Hein. Musulmans, chrétiens, juifs et athées. C'est dans cet ordre-là, avec les mêmes droits. Les athées, c'est toujours un problème. Hein. Et d'autres disent, oui, mais un seul État, mais avec drapeau palestinien. Et ceux qui disent 2 États... on leur dit 2 États, pourquoi? Ils disent parce que le monde est mauvais, que c'est tout ce qu'on va nous accorder, un arpent de désert qu'on appellera État palestinien, mais qu'on sera obligé d'accepter. J'y ai les réfugiés, ils disent ah non, ça c'est sacré, le peuple palestinien est un peuple de réfugiés, donc le droit au retour, il est non négociable. J'y dis mais vous voyez bien que faire retourner les réfugiés à Gaza, où ils sont déjà 75% de la population, ils disent oui, si on a 2 États, évidemment, c'est une étape et la question des réfugiés sera pendante. Et quand on posait la question, pourriez-vous vivre avec les Juifs? Les très vieux qui avaient connu la Nakba disaient, bah oui, c'était nos voisins. Oui. Ceux qui ont travaillé en Israël, ils disaient, on était exploités, parfois humiliés, mais on a noué des contacts humains. Oui, on pourrait vivre. Puis on était libre de circuler. Oui, on pourrait vivre avec eux. Et la grande majorité de la population qui n'est jamais sortie de la cage, c'est comment pouvez-vous nous poser une question pareille? Parce que les Juifs, ils ne savent pas ce que c'est. Ils connaissent les Apaches, et les hélicoptères Apaches, ils connaissent les tanks, les tortueuses, mais les Juifs, les soldats israéliens, mais les Juifs, voilà. Donc il y a aussi cette question-là que nous, par exemple, à l'UJFP, on est vivre ensemble dans l'égalité des droits, mais les Juifs, ils ne savent pas ce que c'est à Gaza, et pour cause. Donc les gouvernements d'Union nationale, j'ai expliqué que ça avait toujours échoué, que la division, c'était une victoire de l'occupant. Je parle un peu de la religion, parce que tout le monde est croyant à Gaza. Il n'y a que 6000 chrétiens, donc c'est presque rien. Il y a très peu d'agnostiques et d'athées. Quand on était invité par des athées, on était obligé de consommer leur alcool de contrebande qui était dans la cave parce qu'il n'y avait qu'avec nous qui pouvait la boire et c'était pas fameux, bon bref. Mais en même temps, voilà, les gens sont croyants, mais par exemple Abou Amir, il va pas à la mosquée parce qu'il dit c'est des gens du Hamas et j'ai pas envie d'écouter leur sermon. Et le Hamas a réussi à imposer des reculs sur la mixité, les écoles primaires ne sont plus mixtes à Gaza. Et l'athéisme, même pour nos copains, c'est un impensé, quoi. C'est-à-dire que quand les gens découvraient qu'on était athée, mais c'est pas possible, vous avez brisé le blocus de Gaza, Dieu dans sa miséricorde viendra sur vous. Mais vous croyez quand même à quelque chose, la solidarité, donc vous irez quand même au paradis. Ou, le Coran est formel, malheureusement, vous êtes tellement bon, mais vous ne pourrez pas. Enfin, c'est pour eux, c'est un vrai problème, quoi. La résistance, il y a deux branches armées offensives, donc qui de temps en temps balancent des missiles, c'est le djihad et le Hamas. Et il y a eu des moments où c'était assez impopulaire à Gaza quand ils faisaient ça. Maintenant, on estime, il y a une nette majorité de la population en Palestine qui estime que, vu ce que fait l'occupant, il faut riposter. Et donc leur popularité a augmenté. Les autres partis politiques ont des branches armées défensives, c'est-à-dire qui ont combattu à chaque invasion, mais plus après. Je termine sur la solidarité paysans-pêcheurs. Donc nous, depuis 2016, à l'UJFP, on est en lien avec le village de Houza, 11 000 habitants sur la zone tampon, village agricole, organisé de façon traditionnelle avec un moctar et tout. On a pu financer un château d'eau, 17 mètres de haut, 107 000 litres, des canalisations, avec Humanitaire, qui est l'ancien CBSP, donc Comité de Bienfaisance et de Secours des Palestiniens, donc une association musulmane, même si elle ne le dit pas officiellement. On a pu financer une pépinière solidaire qui maintenant joue un rôle majeur dans tout le sud-est de la bande de Gaza. On a un agronome, on a une voiture qui sillonne la bande de Gaza et qui donne des conseils à tous les paysans qui sont en situation de détresse, avec un énorme problème qui est comment remplacer les pesticides qui ont empoisonné la terre. On aide aussi les pêcheurs qui sont dans une situation désespérée, avec leur syndicat, l'UAWC. Donc voilà, il faut comprendre qu'à Gaza, continuer de produire, c'est un véritable enjeu. C'est ne pas être les Amérindiens enfermés dans leurs réserves. Donc nous, faire cette aide-là, on n'est pas une association humanitaire. C'est permettre aux paysans de vivre de leur travail et leur permettre de nourrir la population. Au moins, Gaza est à peu près autonome en légumes et en poulet. Il y a aussi des moutons, mais on ne les a pas beaucoup vus. Il y a même des vaches, on ne les a pas vues non plus. Mais voilà, Gaza, même s'il ne reste que 20% de superficie agricole, ça reste un territoire vivant. Excusez-moi, j'ai été long. Mais...
Non. Merci beaucoup. Merci.
Historique, moi je voulais te remonter à ce que tu rappelles la position de Nasser par rapport à la Palestine. Parce que
En 1948, quand les Égyptiens, quand l'armée égyptienne garde Gaza et qu'arrivent les réfugiés, il y a une différence entre la Jordanie qui va annexer la Cisjordanie et Jérusalem-Est, donc ces gens-là vont avoir la nationalité jordanienne, et Gaza qui a un statut d'occupation égyptienne. Mais disons qu'en termes de développement économique et en termes d'abandon, le Gaza va être un territoire abandonné. C'est-à-dire que les réfugiés, peut-être encore plus qu'en Cisjordanie, vont vivre très très longtemps dans des tentes, dans des conditions absolument sommaires. C'est entièrement l'UNRWA qui va donner les faibles moyens, et sinon c'est les Gazaouis eux-mêmes qui vont construire leur camp de réfugiés. Donc on a été reçus par le comité populaire du camp de Khan Younis, et on a vu les photos, véritablement pendant de très grandes années, ils vont vivre dans une très grande misère. Et puis... Gaza va subir, je l'ai dit, l'invasion israélienne de 56-57. Ça fait quand même presque 6 mois d'occupation avant que l'ONU, sur une décision pour une fois unanime des États-Unis et de l'URSS, impose à Israël d'évacuer. Mais voilà, le territoire va quand même être laissé plus ou moins à l'abandon. Disons, le côté le plus positif de l'Égypte, c'est que les étudiants gazaouis au Caire, c'est de là que va partir l'embryon de l'OLP. D'abord avec un type qui était assez louche, qui s'appelait Ahmed Choukheri, qui était un peu vraiment un type pas très intéressant. Puis après avec Arafat et avec le Fatah. Donc le Fatah, quelque part, est né sous parapluie de l'Égypte nassérienne. Mais c'est tard, c'est quand même 65. Il y a déjà 18 ans d'occupation égyptienne. Anecdote, donc, la femme d'Abou Amir nous racontait que c'est Abou Amir lui-même qui nous racontait que quand à la maison, les enfants trouvaient que la nourriture était mauvaise et protestaient auprès de leur mère disait « ça se voit que tu n'as pas connu l'occupation égyptienne ».
Est-ce que tu peux parler du gaz au large de Gaza ?
Alors déjà, il y a une image assez, assez incroyable, c'est qu'à 4 ou 5 km d'Erez, même moins que ça, il y a une tour d'une usine de gaz israélienne à Ashkelon qui fait 100 mètres de haut, et donc un peu comme la tour de Gardanne. Hein, et donc de tout le nord de Gaza, vous voyez ça, quoi. Ça fait quand même un truc assez fantastique. Ce que vous voyez immédiatement d'Israël, avant de voir les Moshavs et les Kibbutzim qui ont pillé toute l'eau de Gaza, vous voyez cette tour. Donc il y a du gaz. Alors, évidemment, chaque fois qu'il y a des richesses, c'est Israël qui décide les frontières. Hein. Donc pour Gaza, effectivement, il y aurait du gaz. Pour l'instant, il n'est pas encore exploité, mais il s'est exploité au large des côtes israéliennes. Et quand ils veulent, les Israéliens exploiteront ce gaz parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Et ils ont fait pareil avec le Liban. Il y a des gisements. Et donc, ils ont mis une frontière qui, quand on la regarde, est complètement loufoque, quoi, qui fait qu'Israël pille une partie de la zone au large du Liban. Donc, ils se comportent comme n'importe quel requin, mais ils se comportent sur toutes les ressources naturelles. Sur l'eau, il y a des lois internationales sur le fait que quand on a de l'eau et que des populations en aval veulent en profiter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Exemple typique du pays qui fait n'importe quoi, la Turquie, qui a mis des 7 barrages sur l'Euphrate. Il reste un filet d'eau pour la Syrie qui a mis un barrage. Le barrage à Faisal al-Assad, mais le barrage turc s'appelle barrage Atatürk. Et donc, du coup, l'Irak a soif. Et puis la Turquie en a mis un deuxième maintenant à Hasankeyf. Ils ont noyé un village fantastique dans le Kurdistan turc. Et à Bagdad, maintenant, il n'y a plus d'eau. Et les Israéliens font pareil, c'est-à-dire que la nappe phréatique qui arrive de Cisjordanie, ils l'utilisent de façon incroyable, et donc l'eau qui arrive à Gaza arrive en toute petite quantité, sauf à Kouza, parce que Kouza est complètement au sud-est de la bande de Gaza. C'est le dernier endroit où, à 150 mètres de profondeur, on trouve une eau presque potable, qu'il faut à peine désaliniser. Mais dans le reste de la bande de Gaza, l'eau n'est plus potable, la nature ayant horreur du vide. C'est l'eau de mer qui a envahi la nappe phréatique et l'eau est inconsommable. Quand vous vous brossez les dents ou quand vous vous douchez, vous voyez bien que c'est complètement salé. Et donc, Gaza consomme de l'eau de source israélienne pour boire. Ça fait partie de... Et l'électricité arrive au compte-gouttes puisque la centrale électrique est régulièrement bombardée et qu'Israël décide quand elle veut ou quand elle ne veut pas donner du fioul pour qu'on puisse faire fonctionner la centrale électrique. Mais voilà, sur tout ce qui est source d'énergie, c'est marché captif. Alors oui, je veux dire que pour Israël, au niveau où ils en sont aujourd'hui, s'ils ont envie de pomper le gaz complètement au large de Gaza, puisqu'il y en a, ils le feront sans aucun problème.
Je suis étonné par ton chiffre de 6000 chrétiens. J'en étais resté à 1300 quand il y a eu...
Moi, c'est ce qu'on m'a donné. On m'a donné 0,3% de la population, 6000. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mahmoud Al-Bada, qui maintenant vit à Besançon et est marié à une Française, à un gosse et tout. Quand on rencontre Mahmoud, bon, il est en instance d'obtenir une autorisation de continuer ses études en France, et il va les continuer, mais il ne reviendra pas. Enfin, il est revenu visiter sa famille, mais il restera français. Mahmoud avait eu... était fiancé à une chrétienne. Il nous a donc assez longuement raconté l'histoire de la communauté chrétienne qui est morte d'un cancer à 19 ans. Et ils ont des problèmes assez dingues au niveau de la... Comment trouver homme ou femme, hein, dans une communauté aussi petite, puisque les mariages sont des mariages communautaires, sinon c'est des mariages par conversion, mais les conversions sont possibles que dans un sens. Tu peux te convertir à l'islam, mais pas l'inverse. Et donc voilà, c'est une communauté avec très peu de monde. Dans Yalla Gaza, il y a quand même le curé de Gaza qui est interviewé, mais en règle générale, les curés palestiniens, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient catholiques latins, sont très courageux et très, très engagés politiquement. Mais c'est vrai qu'à Gaza, il reste une communauté embryonnaire, alors que beaucoup de Gazaouis savent, et nous l'ont dit, que leurs ancêtres ont été chrétiens. Alors, il y a eu l'essentiel des conversions se sont faites au moment de l'arrivée des Arabes en 637, mais il y a eu beaucoup de conversions dans le 19e siècle et tout, et donc il y avait une communauté chrétienne qui était beaucoup plus importante. Mais maintenant, moi j'ai eu le chiffre de 6000, c'est possible que ce soit moins.
Oui, je pense que c'est moins.
Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la vie sociale à Gaza, par exemple? Tu as mentionné qu'il y a des riches et des pauvres, et tu as mentionné en même temps beaucoup de solidarité. Donc, comment ça se passe
Alors, les riches, on est riche parce qu'on a du foncier, donc on peut le vendre ou on peut le louer. Je voyais bien, à chaque fois qu'on a voulu... agrandir tout ce qu'on faisait à Gaza et qu'il n'y avait pas assez de fric, Abou Jamal, il vendait un morceau de terre. Donc lui, il est Mokhtar, mais il a de la terre. Bon, il la donne gratuitement pour le château d'eau, pour la pépinière et tout, mais s'il manque des sous, il a des terres, il peut les vendre. Donc il y a des gens, qui ont du foncier. Il y a des gens qui reçoivent...
Ils vendent à qui ?
À d'autres qui ont des sous. À Gaza, j'ai dit, il y a quand même l'émigration fait apporte quand même pas mal de sous. Il y a quand même pas mal de gens qui réussissent à avoir un cousin en Espagne, etc. Abou Amir, par exemple, il a un frère en Suède et un frère en Espagne. Il voudrait bien que son fils Amir, qui est au chômage et qui a maintenant 30 ans, puisse partir aussi. C'est bloqué, on n'y arrive pas, il n'y a pas de visa Schengen pour lui et tout. Mais voilà, il y a de l'aide qui arrive. Beaucoup de Palestiniens ont travaillé dans le Golfe, certains sont revenus volontairement. Le maire de Kouza, qui a eu des ennuis depuis, mais c'est des histoires de clans, c'était un riche homme d'affaires de Koweït, et il a dit à un moment, moi je ne veux pas vivre comme ça. Donc il avait à Koweït des domestiques, voitures de fonction, tout ça. Et il est revenu à Gaza, à Kouza. Il a dit, je mets mon savoir-faire et mon argent au service de ma communauté. Et donc voilà, il y a des riches comme ça, hein, des généreux et des pas généreux, des requins et des pas requins. Mahmoud Dahlan s'était enrichi à Gaza. On ne pouvait rien faire à Gaza quand l'OLP est revenu à Gaza en 94. Tout ce qu'on voulait construire, une ferme à poulet, n'importe quoi, il fallait donner le bakchich, il s'est terriblement enrichi comme ça, il y a tout. Et au niveau de la solidarité, je dis ce qui... Partout, il y a des petites associations, mais c'est pareil un peu en Cisjordanie, hein, qui font vivre la population, qui leur permettent de survivre, des associations d'entraide, des associations. Et puis, il y a les grosses. Alors, les grosses, elles ont des subventions qui viennent de l'étranger. Et puis, c'est compliqué pour... Alors, l'UAWC fait partie des 6 associations que Benny Gantz a déclarées terroristes. Vous savez, Israël a déclaré terroristes 6 associations. Alors, au hasard, une association de femmes, une association d'enfants... un syndicat agricole, une association de prisonniers, une association de droits de l'homme, c'est bien visé. Mais en gros, ces très grosses associations, là ça dépasse le cadre de Gaza, elles jouent un rôle fantastique. Le PCHR, il s'occupe absolument de tout, ils font des rapports réguliers sur les violations des droits de l'homme, essentiellement de l'occupant, mais aussi du gouvernement de Ramallah, mais aussi du gouvernement de Gaza. Ils ont un département de défense des femmes. Et par exemple, les femmes, elles ont un nombre incroyable d'associations. Alors, des associations sportives, des associations dans des camps de réfugiés. Là-dedans, ben, on raconte des visites à des associations, alors qu'ils trouvent des financements de temps en temps, un peu comme le château d'eau ou la pépinière de Gaza ont trouvé des financements. Mais voilà, il y a toutes ces associations-là. Il faut comprendre que c'est ça qui permet à la société de survivre et de ne pas laisser les gens à l'abandon.
Et du coup, du côté du patriarcat, parce que justement, tu insistes sur le fait qu'il y a beaucoup d'associations.
Alors, il y a évidemment, mais ce n'est pas la France qui va dire le contraire, il y a évidemment des femmes battues, il y a de la polygamie à Gaza, même notre Mokhtar, il a plusieurs femmes. Hein, Mais en même temps, alors lui, il explique et il n'est pas démenti par ses femmes, qu'il les respecte, tout ont des moyens de vivre, etc. Bon, il y a ça. Et en même temps, il y a un nombre assez incroyable d'associations de femmes qui réclament l'égalité. Alors c'est assez rigolo ça. Quand on a la discussion à l'Institut français de Gaza sur peut-on éduquer de la même façon les petits garçons et les petites filles. Les femmes, elles sont toutes voilées. Il y a quelques femmes non voilées, mais vraiment très peu à Gaza. Docteur Amariam, elle n'aurait jamais porté le voile. Hein. Sarah, elle a vécu 2 ans à Gaza, elle n'a jamais porté le voile. Donc, les femmes, elles étaient toutes, pas en révolte contre la tradition, mais en recherche du maximum de liberté qu'elles pourraient trouver à l'intérieur de la tradition. Donc, elles discutaient de l'égalité des tâches à la maison et du sport. Alors oui, ben nous, on veut faire de la boxe, on veut faire du rugby et tout. On veut faire du skate. Alors la discussion après, c'est est-ce qu'on le fait entre nous, est-ce qu'on peut être vu. Ben, il y avait quand même une majorité de femmes qui disaient il n'y a aucune raison qu'on se cache si on fait du rugby ou de la boxe, on veut être vu. Les hommes, c'était moi, je ne suis pas un macho. J'aide ma sœur, j'aide ma femme, j'aide ma mère, mais quand même, les couches du bébé, non, la merde, ça, je ne peux pas. Donc, on développait la discussion de pourquoi ta femme elle pourrait et toi pas. Voilà, mais la discussion elle avait lieu. Donc je veux dire que ces questions elles se posent là. Et la plupart des associations, notamment sur les s'occupent des violences conjugales et aident les femmes qui sont en détresse ou qui ont été abandonnées sans ressources par leur mari et tout, à porter plainte en justice, etc. Donc voilà, c'est. Je peux pas dire qu'un féminisme comme on l'aimerait existe complètement. Les questions, elles sont posées, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi un féminisme en France qui, quand il s'en prend uniquement à l'islam, poserait tout autant de problèmes. Hein, voilà.
C'est en 2003 où on avait passé un mois à Gaza. Dans tous les petits centres sociaux ou autres où on allait, il y avait partout des panneaux sur la lutte contre les violences conjugales, contre les violences envers les enfants. Enfin, c'est quand même quelque chose qui travaille depuis très longtemps, mais qui existe, parce que, bon, c'est sûr qu'avec les conditions là-bas, mais ça fait En tout cas, c'est pas tu, quoi. Ouais.
Et puis, la question des enfants est centrale à Gaza, j'ai dit, sur leur nombre, sur le fait que les familles font les plus grands efforts pour qu'ils aillent le plus loin possible dans les études. Quand vous allez chez des amis au moment des examens, ils vont